14h avec Véro et Max. Bye!
Boulevard 102. Ils ont dit que la télé allait tuer la radio. 2025, puis on est encore là. Plus fort que jamais.
Ben moi, je finis, là, je sais que c'est long, mais je vous félicite parce que je vous écoute de mon patelin à la Rive-Nord de Montréal. Vous fouillez vos dossiers, vous êtes pondérés, vous êtes critiques quand c'est le temps. Moi, j'adore ça. Fait que là, je sais
ben
pas, j'adore
merci,
ça.
Merci, Marc, parce que je sais qu'on est capable d'avoir un échange constructif.
Boulevard 102.1. Boulevard 102.1, la radio du futur.
Salut, bonsoir Québec, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. As-tu passé une belle journée? C'est ensoleillé aujourd'hui, on a été gâtés. J'espère que vous en avez profité. Sinon, ben, baissez les fenêtres de votre véhicule, puis on va avoir un beau podcast de 60 minutes. Je vous présente mon invité dans les prochaines secondes. Juste avant, on va aller voir ce qui se passe côté météo. Avec le facteur humidex, on a pogné le 30 aujourd'hui. Ce soir, ça va se rafraîchir un peu. Minimum de 19 degrés, des probabilités d'averse à 60%. C'est ce qu'on nous mentionne. Pour ce qui est demain, mercredi, sur mes radars. Ce sera nuageux avec un 60% de probabilité d'averse, avec risque d'orage en après-midi, maximum de 22, humidex de 30. Pour ce qui est de jeudi, ce sera de la pluie avec un maximum de 22. Et vendredi, ce sera le retour du soleil avec une alternance de soleil-nuage, maximum de 22 degrés. Mon nom, c'est Yannick Marceau. Je t'accompagne pour les 60 prochaines minutes. Et mon invité de ce soir, c'est Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le Marceau, soir. Le soir. Le soir.
Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables est là. Salut, mon ami!
Bonjour, ça va bien?
Ça va très bien. Bon retour de vacances. Tu m'as manqué. Ça me prenait quelqu'un pour surveiller ce qui se passait du côté de nos gouvernements pour ce qui est des finances. Puis là, je me suis dit, quand Nick n'est pas là, de la Fédération canadienne des contribuables, les souris dansent.
Malheureusement, oui, les souris dansent. Mais tu m'as aussi manqué, puis ça m'a manqué de parler avec tout le monde. Puis écoute, j'ai passé une semaine à jouer au golf, puis à faire des petits road trips ici et là. Puis tout ce que je voyais passer dans les nouvelles, ça me donnait le goût de revenir, continuer le combat. Mais il y avait une partie de moi qui disait, c'est effectivement, on en profite. On voit la commission Galant continuer. On voit toutes ces spirales de scandales qui s'accumulent. La session parlementaire à l'Assemblée nationale vient de prendre fin, puis ça a pris fin pas mal en queue de poisson avec tous les projets de loi qui ont passé, soit sous baillon. Ça pour dire que je suis content d'être de retour à la barre, ne serait-ce que pour les prochaines semaines. On va profiter de l'été pour avancer le maximum de dossiers que possible.
Nick, on va parler de plein de sujets ce soir, dont le bulletin des ministres des Finances, les pires et les meilleurs résultats pour l'année 2024-2025. C'est la Fédération canadienne des contribuables qui a sorti ça. Juste avant, je veux rentrer un peu dans ta vie. Vous avez un gars comme toi ou une fille comme toi dans chacune des provinces canadiennes. Y a-t-il des provinces qui sont plus difficiles que d'autres à couvrir?
Oui, le Québec, c'est pas mal. C'est la province qui est un peu plus, dure à... On s'entend, moi j'adore le Québec, je suis un nationaliste, puis je suis très fier là, de représenter la Fédération canadienne des contribuables au Québec, mais soyons honnêtes, c'est aussi une province qu'on en voit de toutes les couleurs à chaque semaine. Tu sais, c'est, on a vu tous les scandales possibles, tous les dépassements de coûts, on a vu tout ce qu'on peut voir à l'Assemblée nationale dans les dernières semaines, dans les derniers mois, disons que ça nous fait sourciller pas mal, puis qu'on regarde aussi comment ça se passe au niveau municipal, c'est là encore, on a droit à toutes les formes de scandales qui sont possibles tant à Québec qu'à Montréal. Fait que oui, disons que c'est une province qui est dure à dealer sur le fond, mais pour le reste, c'est une province aussi où est-ce qu'il y a une dynamique politique beaucoup plus intéressante que dans les autres provinces. Il faut rappeler quand même à l'Assemblée nationale, on a quand même 4 partis politiques, donc c'est un peu plus intéressant à ce niveau-là. Ceci étant dit, au Québec, il faut le rappeler, l'état de nos finances publiques, des déficits à répétition, ça fait en sorte qu'on a l'impression que ça va pas en s'améliorant, puis on a quand même des raisons de s'inquiéter, plus que dans d'autres provinces où est-ce que généralement les finances sont un peu plus gérées de manière assidue, avec un peu plus de rigueur, puis c'est justement, ça nous amène un peu à ce qu'on s'en allait parler un peu. On a fait notre fameux rapport qu'on appelle le bulletin des ministres des Finances, qui nous permet justement de comparer à quel point certaines provinces se sont démarquées face à d'autres, ou comment plutôt certains ministres des Finances sont démarqués par rapport à d'autres, à savoir qui gère mieux les finances, est-ce que, qui a le plus accumulé de dettes versus qui en a accumulé le moins, qui, ou qui a plus remboursé la dette quand c'est même possible dans certains cas, ou qui a offert le plus d'allègements fiscaux. Donc, on compare ça, puis malheureusement, le Québec, on est trop souvent parmi les cancres et non parmi les provinces les plus performantes. Donc, pour répondre à ta question, effectivement, le Québec, c'est une province qui est dure à dealer avec, mais de l'autre côté, il y a beaucoup d'espoir, on peut en avoir, puis la dynamique politique fait en sorte que tranquillement, les débats vont de plus en plus intéresser et concerner les contribuables. Donc, il faut rester quand même optimiste.
Parmi les provinces, peut-être, qui sont le plus faciles pour la Fédération canadienne des contribuables, là, quelle serait la province où un gars ou une fille comme Nick Gagnon serait « Oh, ma job n'est pas si pire que ça. » La Fédération canadienne des contribuables dans ma province. La province la plus facile à couvrir, selon toi, ce serait quoi?
Ben, c'est drôle à dire parce que c'est facile, mais à la fois difficile. Moi, je donne souvent des exemples comme les provinces de l'Ouest, comme l'Alberta et la Saskatchewan. Pourquoi? Parce que c'est des provinces que, quand on regarde l'état de leurs finances publiques, puis surtout les partis au pouvoir, ben, quand on parle, par exemple, de réduire la taille de l'État, ou plutôt de réduire le nombre de fonctionnaires, ou sinon de réduire les dépenses, ou de réduire d'offrir des allègements fiscaux, la réaction politique est beaucoup plus intéressée à ce genre de proposition-là. On l'a vu au Québec, d'ailleurs. On parlait de baisser les taxes sur l'essence, de se retirer la bourse du carbone. Il y a une fin de non-recevoir sur ce débat-là au Québec, même s'il y a eu des sondages à répétition qui démontrent que les Québécois veulent sortir de ce mécanisme-là et réduire les taxes sur l'essence pour aider les automobilistes. Mais dans d'autres provinces, ça a été pas mal, on a été pas mal plus rapide à prendre la balle au bon. Puis notamment, l'Alberta, ça fait partie de ces provinces-là, la Saskatchewan également. Ceci étant dit, notre travail aussi consiste pas juste à proposer des politiques qui vont un jour peut-être être reprise par le gouvernement, mais aussi d'exposer le gaspillage des dépenses de certains paliers de gouvernement, que ce soit au niveau municipal, provincial ou fédéral. Et je dirais que dans les provinces comme la Saskatchewan puis l'Alberta, il y a du gaspillage, mais il y en a beaucoup moins qu'au Québec. Fait que je dirais que ma job est plus facile au Québec quand c'est le temps de trouver du gaspillage que celle de mes collègues dans les autres provinces. En contrepartie, eux, ils ont plus de facilité à faire aller de l'avant certaines de leurs idées qui amènent un changement au niveau des politiques publiques et fiscales comme telles.
Est-ce que vous parlez entre vous, parce que toi, tu es directeur pour le Québec, mais les directeurs ensemble, est-ce que vous parlez directeur-directrice? Puis est-ce que des fois, il y en a qui te disent « Tabarouette, j'aimerais ça couvrir quelque chose à Québec parce que ce serait pas compliqué de trouver des problèmes? »
Oui, on se parle à peu près à chaque semaine, à peu près deux, trois fois semaine, puis on maintient des communications avec toutes les autres outils à notre disposition pour justement s'informer de nos différentes découvertes. Et ça m'arrive souvent que je reçois des commentaires de genre « Ouais, j'aimerais ça pouvoir être au Québec parce que vous avez pas mal plus de sociétés d'État, puis c'est là qu'on trouve le plus d'exemples de ridicule. » En fait, un des meilleurs exemples, je pense, que j'ai parlé récemment, c'est Investissement Québec avec nos 1300 employés qui ont un des pires rendements en termes de firmes d'investissement à travers le monde. Une firme d'investissement qui a un rendement de 0,3%, c'est ridicule, surtout quand tu as une masse salariale qui atteint quasiment 160 millions de dollars par année. Quand tu compares ça à d'autres grandes firmes à travers le monde, je pense que la plus grande firme d'investissement au monde est située à New York, c'est Bridgewater & Associates. Puis eux autres ont à peu près le même nombre d'employés, mais eux, ils gèrent à peu près une affaire comme un actif d'à peu près 300 à 400 milliards versus Investissement Québec qui gère 7 milliards, mais on a des dépassements de coûts, une masse salariale qui augmente, les salaires de la présidence augmentent, mais les résultats sont pas au rendez-vous.
Le rendement de cette firme-là qui ressemble un peu à Investissement Québec, qui a autant d'employés, mais qui a un plus gros portefeuille, le rendement, parce que tu dis qu'Investissement Québec, c'est 3%, ce qui est épouvantable. Tu peux pas être plus poche que ça, à moins d'aller au casino, mettons, quand tu perds tout. Là. Mais le rendement de cette grande firme-là, c'est quoi à peu près?
C'est une bonne question. Écoute, je pense que c'est plus proche de 10% que de zéro. Ça, c'est sûr et certain, mais je n'ai pas le chiffre sous la main. Si je me base sur les indices internationaux, on doit être dans ces eaux-là, d'environ 10%.
Parce que ce serait aussi débile que le Québec s'accote sur le S&P 500 puis laisse l'argent jusqu'à temps qu'il décide de le retirer. Ce serait beaucoup plus rentable, mais on ne pourrait pas faire plaisir à nos amis en leur procurant de beaux emplois avec des salaires qui sont démesurés et des bonus qui n'ont pas lieu d'être. Parce que tu me parle d'Investissement Québec, tout ce beau monde-là, même s'ils ne sont pas très performants à 3% de profit, ils ont tous leurs bonus. Là. C'est eux autres les vrais riches, c'est eux autres qui vont s'en sortir. Eux autres, là, quand ils arrivent chez Investissement Québec, eux autres, ils en ont du rendement dans leur emploi. Là.
Absolument. Puis, tu sais, une des discussions que j'avais eues avec mes collègues à ce moment-là, quand on traitait du dossier d'investissement Québec, c'est qu'ils me posaient la question, ben, c'est quoi le but d'investissement Québec? À quoi ça sert? Parce qu'à la fin de la journée, entre vous et moi, ça sert essentiellement au bras du, comme un bras du gouvernement pour faire de l'intervention économique. Tu sais, c'est-à-dire, c'est plus le bras du ministère de l'économie, essentiellement. Donc, c'est une manière, essentiellement, de prendre l'argent des contribuables puis de faire des investissements ciblés dans le but d'avoir du rendement. Du moins, ça, c'est ce qui est indiqué. Mais à la fin de la journée, même la présidente, ou plutôt je pense que c'est Bisha Ngo, qui est la dirigeante PDG, présidente directeur général de Investissement Québec, elle disait elle-même que le rendement n'était pas la seule priorité ou c'était pas l'ultime priorité. Je n'ai pas le mot exact comment elle a formulé ça, mais essentiellement, elle allait un peu comme en opposition à ce que c'est vraiment une firme d'investissement comme telle. Je veux dire, c'est comme si un médecin disait, ben écoutez, notre priorité, c'est pas les soins aux patients. C'est à peu près la même chose qu'une firme d'investissement qui dit que notre priorité, c'est pas le rendement. À la fin, si votre priorité, c'est pas le rendement, il est temps de tirer à plat. Puis dans le cas d'Investissement Québec, ben ils ont se dit qu'ils essaient de créer une certaine dynamique économique, d'amener des retombées économiques, mais tout ça, ça se calcule pas. Ce qu'on peut calculer, par exemple, c'est le rendement qui est carrément ridicule, un rendement qui est largement inférieur à la masse salariale des employés d'Investissement Québec. Ça, on aurait un meilleur rendement à simplement tirer la plug sur Investissement Québec puis de sauver cet argent-là puis de le mettre dans n'importe quoi d'autre plutôt que de laisser cette firme-là continuer à prendre l'argent des contribuables puis à faire des paris qui mènent nulle part. Il faut rappeler, Investissement Québec ont été dans combien d'initiatives qui ont échoué dans les dernières années? Ils étaient dans Nordvolt, ils étaient dans Lyon Électrique, dans Taiga, ils étaient dans à peu près toutes les initiatives de filière électrique qui ramènent plutôt la moyenne au bâton, pas mal plus basse que ce qu'on pense, là. Et ça, c'est sans oublier tous les autres manquements qui ont eu lieu au cours des dernières années. Donc ça, c'est un exemple flagrant de qu'est-ce qui devrait être littéralement supprimé au Québec. Puis je suis persuadé que les 1300 employés d'Investissement Québec n'auront aucun problème à se trouver une job équivalente dans le privé et même d'avoir peut-être des meilleurs salaires puis de contribuer davantage à la société québécoise qu'ils le font présentement.
C'est un rendement de 2,6% là, qu'Investissement Québec a dégagé. Puis quand tu parles de Bisha Ngo, elle a eu une prime, Nick, d'environ 214 000 $ en 2024, ce qui porte son salaire à 1 million de dollars, donc 1 070 000 $ en 2024-2025. Mais comme elle dit, bon, les bonus et tout ça, c'est correct, là, mais on n'a pas besoin de faire du gros rendement. Ce n'est pas notre but initial. Alors, on procure des jobs à des amis, là.
Ben, t'sais, honnêtement, on pourrait sincèrement se poser la question à quoi sert Investissement Québec rendu là quand on obtient des réponses de la sorte. Mais malheureusement, encore une fois, il faut qu'il y ait un engagement du politique pour que ces choses-là se passent. Et pour l'instant, on n'en a pas vraiment vu d'engagement de la part de la Coalition de Québec de supprimer Investissement Québec ou de réorienter son mandat pour être vraiment axé sur le rendement et non sur des visions qui mènent vraiment nulle part à la fin de la journée. Mais bon, tristement, c'est un des multiples exemples des choses au Québec qu'on doit continuer à combattre et à dénoncer sur toutes les tribunes. Ouais.
Une multinationale de 3000 employés qu'on a au Québec, je connais très bien le patron, là, les gens qui sont aux ressources humaines, la plus haut gradée, est autour de 210 000 $. Je regarde la vice-présidente aux ressources humaines, Marie Zakaïb, c'est 885 000 $ par année. C'est 4 fois plus qu'au privé.
C'est énorme. Et l'argument est toujours de dire ben il faut qu'on offre des salaires plus élevés que le privé pour être plus compétitif, puis justement amener des pointures qui vont être plus performantes, puis amener l'institution à aller de l'avant, puis avoir un meilleur rendement. Mais au final, on donne des gros salaires supérieurs à ce qu'on trouve dans le privé pour avoir un rendement qui est inférieur au privé. Donc, je pense que le paradoxe, il est très bien identifié, rendu là, puis ben je pense que c'est très bien identifié. Je sais pas à quelle compagnie tu compares, mais je pense que on est pas mal dans pas mal dans les bons ordres.
C'est 210 000 $ sur une entreprise qui a 2000, la plus haut gradée sur une entreprise qui a 3000 employés, sont au Canada, sont aux États-Unis, sont en France aussi. Puis c'est 210 000 $. Ça ressemble à rien au salaire qu'on donne chez Investissement Québec. Puis je regarde, 2024, ils ont perdu 60 salariés. Puis quand tu parles des salariés, bon, c'est soit qu'il y a des départs à la retraite ou des congédiements ou des gens qui s'en vont par eux-mêmes. On a donné aussi 2,3 millions de $ en indemnité de départ. Ouais, parce que le chômage, c'est pour les pauvres.
Ouais, puis le pire là-dedans, c'est qu'ils avaient engagé plus d'effectifs que prévu initialement, puis ils ont dû en mettre quelques-uns à la porte. Donc, comme pour une période de 6 mois, il faudrait que je retrouve exactement comment dire, l'exemple mot pour mot, mais essentiellement, Investissement Québec avait un très gros problème au niveau de la gestion de leurs effectifs par-dessus le marché, où est-ce qu'ils engagent trop de personnel pour en renvoyer par la suite? À cause du fait qu'ils doivent les renvoyer, ils doivent leur donner un package de départ. Donc, ça, tu as eu tout le coût de l'embauche. Le coût salarial plus le coût de la mise à pied qui était littéralement évitable, mais quand on gère mal ses effectifs et qu'on a un aussi mauvais rendement, faut pas s'étonner non plus.
Écoute, tu sais, je veux pas être prophète de malheur, là, mais je pense aux gens qui ont de la misère à arriver ces temps-ci, Nick, qui nous écoutent, sont dans leur voiture à grandeur du Québec, ils écoutent Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables, puis ils t'entendent des fois, puis ils m'entendent parler des dépenses qui sont complètement folles de la part de nos gouvernements. Ces gens-là doivent être complètement humiliés. Tu travailles 40 heures par semaine, toi, avec ta conjointe, tu as des enfants, tu as choisi d'avoir des enfants, tu as choisi d'avoir un petit lopin de terre, tu as choisi d'avoir ta maison, ou des fois, tu n'as pas assez d'argent, tu es dans ton logement, puis tu travailles 40 heures, puis tu n'arrives pas. C'est humiliant. Puis quand tu vois que les personnes qui sont en haut lieu ou des amis du gouvernement bénéficient de ton argent que toi, t'envoies au gouvernement, bon Dieu, des fois que tu te dis, je serais peut-être mieux en Alberta.
Ben, effectivement, moi, je dirais autant que j'apprécie regarder certains autres modèles puis voir qu'est-ce qui pourrait nous inspirer de ces modèles-là pour qu'on puisse ne serait-ce que reprendre le modèle à notre manière, si on veut. D'une autre part, je pense que je ne garde pas les yeux rivés sur l'Alberta ou sur l'Ouest. Je les ai plus sur le Québec, puis j'espère que le Québec va continuer à s'améliorer. Puis je pense que la meilleure manière de le faire, c'est de nous comparer, justement, puis de ramener ces comparatifs-là. C'est sûr qu'on connaît tous l'expression, là, comment dire, là, se comparer avec le voisin, c'est pas nécessairement la meilleure solution, c'est pas nécessairement la meilleure approche. Mais des fois, c'est une manière finalement, d'arriver à la conclusion que certaines de nos pratiques doivent changer, puis certains de nos objectifs doivent être révisés. Et c'est pour ça pour venir à ce qu'on avait initialement parlé, pour refaire rapidement le tour du topo, le fameux bulletin qu'on a sorti, en fait, on l'a sorti au cours de la dernière semaine, mais on le sort au compte-goutte, puis dans le fond, la version québécoise, elle vient tout juste de sortir. Et c'est notre fameux bulletin des ministres des Finances, où est-ce qu'on compare les résultats entre les différentes provinces. Et malheureusement, parce que ça, c'est quand même notre première édition. On espère refaire ça à chaque année pour refaire un peu cette évaluation, ce comparatif entre les provinces et le Québec, malheureusement, sur les critères qu'on a évalués, se ramasse pas mal en queue de peloton, pour ne pas dire en troisième mauvaise position. Donc, on est le troisième pire au Québec, pardon, au Canada, quand on se compare, par exemple, ou quand on compare nos ministres des Finances et leurs résultats au niveau de la dette, des paiements, des intérêts de la dette, des augmentations des dépenses et des allègements fiscaux qui ont été mis à la disposition des contribuables au cours de la dernière année fiscale. Ça, c'est le genre d'exercice qu'on peut faire de notre côté. Puis justement, ça permet d'ébruiter la situation, de rappeler à quel point finalement notre ministre des Finances n'a pas vraiment de bonne job. Ça serait le fun qu'il fasse son travail de ministre des Finances. Et par-dessus le marché, bien, ça permet aussi de montrer la réalité des finances publiques aux Québécois, puis de la comparer à la réalité des autres Canadiens. Et dans notre cas, bien, justement, pourquoi est-ce que le Québec se retrouve avec une mauvaise note? Bien, pour faire simple, nous, on a fait un genre de bulletin avec des notes, donc A, B, C, D, E. Bien, il n'y a pas de E, il n'y a pas non plus de A, parce que pour avoir la lettre A et donc avoir la meilleure lettre sur le bulletin, il faut à la fois réduire les impôts et aussi réduire la dette. Ce qui n'est pas arrivé cette année, donc il n'y a personne qui a eu une baisse, comment dire, ou qui a eu la note parfaite. Pourquoi? Parce que toutes les dettes provinciales cette année ont augmenté. Toutes les provinces ont fait des déficits. Donc, tu sais, on aime ça un peu, comment dire, blâmer l'état de nos finances publiques en disant ah, ça n'a pas de bon sens, comment ça, on a un déficit record. Effectivement, on a toutes les raisons d'énoncer ça, mais la réalité, c'est que toutes les provinces cette année sont dans le rouge. Il y avait tout le même discours aussi au moment de présenter le budget. Ah, il y a une guerre commerciale, il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on dépense davantage, il faut qu'on trouve une stratégie pour faire face aux tarifs. Tout ça fait en sorte que on s'est ramassé dans les déficits par-dessus la tête. Mais il y en a certains qui ont fait meilleure figure. Puis la province qui a fait meilleure figure cette année, ben, c'est la Saskatchewan. Pourquoi? Ben, c'est la province qui avait quand même le plus petit déficit ou la plus petite accumulation de sa dette cette année. Ils ont aussi les intérêts sur la dette parmi les plus bas au Canada. Et finalement, l'augmentation des dépenses était pas mal sous contrôle, en plus de donner des baisses de taxes et d'impôts. Donc, rendu là, c'est quand même plus intéressant par rapport au Québec qui, malheureusement, a la note de D. D-. Donc, la Saskatchewan B+, le Québec D-. Pourquoi? Ben, parce que notre dette augmente drastiquement avec un déficit de 13,6 milliards. Faut quand même s'attendre à ce que la dette augmente, puis elle va augmenter à la somme de 258 milliards de dollars cette année. C'est énorme si on parle bien de la dette brute. Et ça veut dire que d'ici 2030, on devrait atteindre les 325 milliards. Mais là, je ne perdrai pas les gens dans les chiffres là-dessus. Mais ce que veut dire 258 milliards pour le commun des mortels, ça veut dire que chacun d'entre nous qui écoute présentement, ainsi que famille et amis, chaque individu au Québec doit essentiellement 28 300 $. C'est-à-dire que chacun, on a une dette qui est attribuable à celle du gouvernement du Québec, parce que c'est une dette qui est accumulée par nous, mais pour nous. Donc, c'est nous qui devons la rembourser en tant que contribuable, d'une certaine manière, avec les paiements d'intérêts à chaque année. Et justement, à ce niveau-là, au Québec, on paye 9,7 milliards en intérêts sur la dette. C'est énorme. Et c'est un des montants les plus élevés au Canada en termes de paiement d'intérêts sur la dette provinciale. Surtout quand on la compare à notre PIB. Donc, c'est des choses comme ça qui font en sorte qu'on a une des pires figures. Par contre, peut-être le seul élément positif à dire sur Éric Girard par rapport aux autres ministres des Finances, c'est qu'on a une des augmentations des dépenses des budgets qui est les plus faibles au Canada, juste 5,2%. C'est pas grand-chose, on s'entend de souligner ça, mais ça démontre quand même qu'il y a une vigilance de la part du ministre à contrôler les finances, ne serait-ce qu'à réduire tranquillement le rythme d'accélération des dépenses. Fait que tout ça étant dit, on a une très mauvaise figure. On est parmi les pires au Canada présentement. On espère que ça va changer d'ici l'année prochaine. Puis comment ça peut changer? C'est simple. Il faut que le gouvernement ait un plan pour le retour à l'équilibre budgétaire, qui réduit ses déficits, qui commence à rembourser la dette, puis qui commence aussi à démontrer là, un intérêt par rapport à cette question de pas juste de l'équilibre des finances publiques maintenant, puis pour des raisons électoralistes, mais aussi sur le long terme, et de s'assurer aussi éventuellement à donner des allègements fiscaux en conséquence aux contribuables.
Quand vous calculez la dette par habitant, est-ce qu'on prend les gens qui ont 18 ans et plus, ou mon enfant naît demain, bien, il est endetté de 28 356 $?
On l'apprend effectivement à partir du moment que c'est un individu qui vit au Québec. Il fait partie de ceux qui vont devoir assumer inévitablement le coût de la dette du Québec.
Bienvenue au monde. Bienvenue dans notre monde. Tu dois 28 000 $ en partant.
Exact. Et tristement, ce montant-là, ben, il va augmenter. Il va augmenter au fur et à mesure. C'est sûr que si la population augmente, en contrepartie, ça va se diluer. Mais pour l'instant, tout ce qu'on marque, c'est à quel point la dette augmente drastiquement. Comme je disais, on était à 258 milliards cette année. Quand Legault est arrivé au pouvoir, on était plutôt aux alentours de 200 milliards. Et d'ici 2030, donc l'année où est-ce qu'on espère retourner à l'équilibre budgétaire, donc l'année où est-ce qu'on va arrêter d'augmenter la dette à coût de déficit, et ça, c'est à condition que le plan se tient d'ici ce temps-là. J'ai à rappeler qu'il y a deux élections, une en 2026 puis une en 2030 qui vont arriver d'ici ce temps-là. Donc j'ai hâte de voir si le plan pour contrôler la dette du Québec va avoir lieu. Mais ceci étant dit, si cela, on va atteindre 325 milliards. Donc, la dette, au cours des dernières années, on a souvent parlé de la dette au fédéral qui a doublé sous Justin Trudeau. Mais il faut quand même rappeler que sous François Legault, elle a quand même drastiquement augmenté. Puis ce qui est le plus dommage là-dedans, c'est qu'on se dit on a dépensé autant, mais où sont les résultats? Quand on regarde nos écoles, quand on regarde nos hôpitaux, quand on regarde nos routes, quand on regarde nos infrastructures, l'absence de nouvelles infrastructures, je veux dire, comment on peut avoir augmenté une dette aussi colossale, puis on n'a pas de nouveau troisième lien, on n'a pas de tramway, on n'a pas à Québec, ou sinon on n'a pas d'autres infrastructures. Il y a eu le REM à Montréal, mais on a comme l'impression qu'on a creusé une dette sans nécessairement en donner davantage aux Québécois, mais ça va coûter bien plus cher aux contribuables à court, moyen, long terme. Puis un exemple flagrant là-dessus pour finir, c'est vraiment le coût des intérêts sur la dette, c'est 9,7 milliards. Ça veut dire que chaque contribuable doit payer environ 1065 $ de nos taxes et impôts, pas pour des services en santé ni en éducation ou pour réparer le nid de poule en avant de chez vous, mais pour littéralement couvrir des intérêts sur une dette qui va continuer d'augmenter.
Là, il y a de ça deux mois à peu près, l'agence Standard & Poor's, le S&P en fait, a décidé d'abaisser la cote sur la dette du Québec. Dans les derniers jours, je ne me trompe pas, vers les entours du 10 juin, la firme DBRS a maintenu sa note, la note sur sa dette pour ce qui est du Québec. Y a-t-il d'autres firmes qui pourraient nous décoter là, que tu vois dans les prochaines semaines, les prochains mois?
Il y a certaines firmes qui observent le Canada présentement, dont la fameuse firme Fitch. Donc, ils regardent plus au niveau fédéral.
Ouais.
Mais aussi, ce qu'il faut s'attendre, c'est qu'il va y avoir une mise à jour économique qui s'en vient à cet automne au provincial. Donc, ça devrait être présenté, si je ne me trompe pas, c'est vers novembre au début décembre. Et donc, cette mise à jour économique-là va généralement susciter une réaction de la part des agences de crédit. De la même manière que les agences de crédit vont réagir au dépôt d'un budget, ils vont réagir à la mise à jour économique parce que, puis ça, on l'a remarqué l'année dernière, en fait, c'est que si jamais la mise à jour économique ne reflète pas les mêmes projections que celles dans le budget, c'est-à-dire qu'on est carrément à côté de la plaque 6 mois plus tard, ben les agences de crédit vont dire, ben là, c'est parce que les finances sont pas tout à fait sous contrôle, on va vous envoyer un autre avertissement. Puis il faut dire qu'il y a souvent cette forme d'effet domino, c'est-à-dire que si, par exemple, Standard & Poor's, décote le Québec, ça attire automatiquement l'attention de toutes les autres agences de crédit qui vont devenir plus vigilantes, sans nécessairement réviser leur cote à la baisse, ils vont être plus vigilantes aux activités financières, ou plutôt de l'état des finances du Québec. Et si jamais, justement, la mise à jour économique cet automne est négative, puis ça, ben, on a déjà des petits drapeaux rouges qui s'en viennent. On a peut-être une récession qui s'en vient d'ici la fin de l'année. Il y a des complications au niveau international avec les différents conflits qui pourraient provoquer des perturbations au niveau des chaînes de ravitaillement. On a la guerre commerciale avec les Américains. Donc, tout ça fait en sorte que ça pourrait compliquer les choses au niveau de l'économie mondiale, mais inévitablement aussi de notre économie qui est ancrée un peu là-dedans. Donc, on peut s'attendre à des mauvaises nouvelles cet automne. J'espère avoir tort, mais une chose est sûre. Moi, si j'étais à la Coalition des Québec présentement, si j'étais au gouvernement, je ferais très attention aux annonces qui vont être faites dans les prochains mois et je commencerais à regarder aussi quoi ma stratégie pour ramener de l'ordre. Parce que 2026, ça arrive à grands pas malgré tout.
Mais on s'en va vers une année électorale, là, donc j'imagine qu'on va essayer d'être rigoureux puis jusqu'à temps qu'on redonne des nananes peut-être vers la fin de l'année. Mais c'est sûr et certain que ce qu'on nous dit, c'est qu'au niveau de l'éducation, directeurs d'école qui se font dire « bon, vous devez couper dans vos budgets ». Fait que, visiblement, le message qu'on a d'en haut, c'est qu'on demande à tout le monde de se rationaliser le plus possible. Là. Il y a un message qui est envoyé de la part de la CAQ, là, c'est-à-dire on ne veut pas de décote, là, on veut essayer de sauver les fesses. Là.
Ben oui, mais de l'autre côté, c'est comme si le message n'avait pas été transmis à peu près à tout le monde dans la fonction publique, c'est-à-dire qu'il y a eu un genre de gel qui a été fait depuis le 1er novembre dernier dans l'embauche des effectifs, du moins dans une certaine partie de la fonction publique québécoise, qui est comme relativement maintenue, mais ça touche à peu près la moitié de la fonction publique comme telle. Mais quand on regarde les dépenses puis la manière que se comportent les sociétés d'État du Québec, les différentes agences gouvernementales, on se pose la question finalement, est-ce qu'on prend au sérieux les avertissements du gouvernement par rapport à l'état des finances? Parce que on a parlé longuement d'Investissement Québec, mais puis, tu sais, je veux dire, d'une part, on dit qu'on va manquer d'argent, il faut qu'on slack, il faut qu'on fasse attention, mais d'une autre part, vous avez des agences comme ça qui sont incapables d'avoir un rendement intéressant puis qui continuent à dépenser des dizaines et des dizaines de millions en effectifs, alors que, je veux dire, le ménage, il aurait dû être fait là il y a très longtemps. Sinon, on regarde Hydro-Québec, le rendement, il tire de la patte, on continue à embaucher des effectifs, on n'a pas vraiment un contrôle sur les opérations, on voit qu'on dépense, on a un plan sur les 10 prochaines années qui va coûter pas loin de 180 milliards. Ça se demander si on a les moyens d'assumer ces dépenses-là, surtout quand on sait que Hydro-Québec a aussi été décoté. Il faut rappeler que c'est pas juste le Québec qui a été décoté, Hydro-Québec aussi. Donc, il y a des signaux d'alarme qui ont été envoyés à plusieurs endroits, mais qu'on aurait pensé que le gouvernement serait en mesure d'envoyer à grandeur de ces différentes institutions, pour dire que ça se rend pas. On a des PDG de sociétés d'État qui font des salaires qui dépassent facilement les 1 million de dollars, alors qu'on devrait passer le mot en disant OK, cette année, peut-être que les bonus, vu que vous avez un rendement qui est aussi faible, ça serait le fun que vous mettiez ça de côté, vos primes de rendement. Vous faites déjà un salaire de 800 000 $ ou de 600 000, vous pouvez vous passer de la prime de 200 000 cette année. Là. Ne serait-ce que de couper dans ce gras-là, ben malheureusement, l'exercice n'est pas fait, mais on commence à donner des directives dans le système de santé puis dans le système d'éducation, ce qui fait aucun sens. Il y a bien trois choses dans lesquelles on ne devrait jamais couper dans une société, bien sûr, en étant avec une certaine forme de rigueur dans le contrôle des finances, c'est la santé, l'éducation et la sécurité publique. Et malheureusement, on a l'impression que c'est pas mal trois secteurs qui vont passer au BAT, mais qui auraient dû être les derniers à écoper là, de la mauvaise gestion des finances publiques.
Quand Hydro-Québec a été décoté, je me souviens de la citation de Michael Sabia qui a mentionné que la décote et la perspective de S&P font pas nécessairement partie de ses préoccupations. Je trouve ça particulier. Il n'y a pas un gars, justement, qui était dans le dossier de sa clique qui a dit « on commencera pas à paniquer pour 200 millions de dollars, c'est pas ça qui va changer nos vies » ou quelque chose du genre.
Oui, c'est-tu du charme, ça, ou c'était un autre?
Mais oui, j'ai été flabbergasté de voir que ces gens-là, puis là, je retire Michael Sabia de ça, mais le gars qui a dit « Hey, c'est pas 200 millions qui va changer nos vies, là. » Attends un peu, là. C'est parce que c'est. Toi, t'es bien payé par l'État, là. Mais de notre côté, c'est nous qui te fournissons tout cet argent-là. Puis le fait que tu te dises, hey, les deniers publics, c'est pas si important que ça, dans le fond, ça fait suer son contribuable.
Ben oui. Je veux dire, c'est totalement inadmissible que ce commentaire-là puisse être émis. Comme, je veux dire, on avait déjà en plus révisé ensemble les coûts de sa clique, puis on les avait même comparés à d'autres grands projets qui ont eu lieu. Où est-ce qu'on se rend compte que pour 200 millions de dollars, on aurait quasiment pu lancer ChatGPT à nous seuls, puis on aurait pu révolutionner le monde de l'intelligence artificielle. Mais avec 1,1 milliard, on a réussi à faire une plateforme informatique qui marche tout croche ou qui marche pas à moitié du temps, puis avec lesquelles on a encore des problèmes, puis possiblement d'autres dépassements de coûts à venir au courant des prochaines années, sans oublier le fait qu'il y a tout un conflit, peut-être même d'intérêts, qui a lieu avec ça. Donc, c'est totalement inadmissible d'oser dire ça aux contribuables. Bah, écoutez, ouais. Là, on va pas se faire du sang d'angle pour des choses de même, mais à la fin, c'est une mentalité qui est beaucoup plus répandue dans la fonction publique québécoise qu'on pourrait le croire.
Mais as-tu l'impression que Michael Sabia est parti pour les bonnes raisons ou bien il y a peut-être quelque chose qui se cache derrière ça? Visiblement, Hydro-Québec, ça va pas si bien que ça, là.
Ben, c'est une bonne question. Je veux dire, j'ai très hâte de voir qui va prendre sa place après ça, parce que bon, il y a eu Sophie Brochu, là, il y a Michael Sabia, ça fait quand même des pointures qui ont emmené aussi une certaine forme de tentative de révolution à l'intérieur d'Hydro-Québec. Là. C'est-à-dire que Michael Sabia, c'est lui qui se mettait à piloter, entre autres, toute cette transformation qui est à venir au niveau du plan de développement d'ici 2035 pour Hydro-Québec. Je veux dire, il a comme mis sur la table un gros projet qui était déjà commencé par ses prédécesseurs, puis finalement, il s'en va dès que le projet de loi 69 a été passé. Donc, c'est quand même bizarre. Il a été là à peine 2 ans et il s'en va maintenant devenir le plus haut fonctionnaire de la fonction publique fédérale à Ottawa. Il va travailler donc au conseil privé. Il devient, j'ai le terme en anglais, clerk, là. C'est pas tout à fait ça. C'est le greffier du conseil privé. Donc, je pense que l'appel du devoir a été quand même fort. Là. C'est quand même quelqu'un qui, je veux dire, Michael Sabia, il est très fortuné. Il n'est pas là pour... c'est pas quelqu'un qui est un opportuniste pour le salaire, là, je veux dire, contrairement à ce que bien des gens pourraient penser pour certaines personnalités. C'est quelqu'un qui est quand même guidé par ses orientations puis par son travail lui-même. Mais ce que je trouve vraiment bizarre, c'est vraiment son départ qui est assez précipité. On peut comprendre qu'il y a un contexte à ça, mais c'est surtout dans l'état qu'Hydro-Québec est laissé. On a hâte de voir si la gouvernance va complètement changer ou si on va garder le cap. Puis si on garde le cap, est-ce que l'héritage de Michael Sabia va être bon pour le Québec ou désastreux? Moi, personnellement, comme je vous dis, le projet qu'Hydro-Québec a pour l'instant, là, ces investissements de plus de 180 milliards au cours des prochaines années, qui va fort possiblement donner des chocs tarifaires là, à assumer pour les contribuables et pour les PME, ben, j'ai très peur en fait que finalement ce soit plus négatif que positif et que peut-être qu'éventuellement il va y avoir un 180 degrés qui va être nécessaire puis ça va nous coûter encore plus cher que prévu d'annuler cette initiative-là. Ouais. Fait, bref, j'irai pas trop loin dans les détails, mais je crois que au final, Sabia n'a pas fait un mauvais travail comme tel, mais j'ai pas l'impression qu'il était là assez longtemps pour qu'on puisse vraiment avoir une idée de son héritage pour l'instant.
J'ai retrouvé la fameuse citation de l'ex-président du conseil d'administration de la SAAC, Guy Morneau. Il a dit, et j'ouvre les guillemets, « Quand bien même que ça coûterait 50, 100 ou 200 millions de plus, pas ça qui va empêcher la Terre de tourner. » Et je ferme les guillemets. Je parle du commentaire, je parle pas de l'individu, mais quel commentaire de cabochon.
Absolument.
Quel commentaire de cabochon.
Mais le pire, c'est que, comme je disais, il dit tout haut ce que plusieurs hauts fonctionnaires doivent penser tout bas également. Donc, c'est peut-être que lui il s'est fait poigner sur le coup, là, puis peut-être qu'il essayait de se défendre, puis sa ligne de communication est mal sortie. Mais je veux dire, puis je comprends ce qu'il essayait de dire à ce moment-là. C'est comme, il est trop tard, c'est fait. Ouais, mais c'est parce que le but de cette commission-là, puis de l'enquête qui est menée présentement avec aussi de l'UPAC sur le dossier, c'est pas juste d'épingler les responsables ou plutôt de peinturer dans un coin les mauvais fonctionnaires qui auront fait un très mauvais travail pour nous emmener à ce dépassement de coûts et tout le fiasco qu'on connaît avec sa clique. Mais le but, c'est d'éviter que ça se reproduise. On ne veut pas avoir d'autres sa clique. Fait que oui, je suis désolé pour M. Morneau, mais ce genre de commentaire-là, c'est inacceptable. parce qu'il n'y a aucun contribuable qui va entendre ça. On veut pas, il n'y a aucun fonctionnaire dans la fonction publique québécoise qui a autant de pouvoir qui devrait se permettre de tels commentaires. Mais d'un autre côté, bon, il en a laissé glisser une, on va le pardonner, mais il faut éviter que ça se reproduise. Autant ce commentaire-là que ce laisser-aller que donner place à un fiasco monumental.
Mais as-tu l'impression, c'est peut-être comme ça pour les ministres et les grands administrateurs de nos ministères, mais as-tu l'impression qu'ils sont conscients de chaque dollar gagné par les Québécois, par les contribuables? T'sais, chaque dollar qu'on envoie, la semaine passée, je parlais avec Luc Poirier, le fameux futur milliardaire, là. Puis moi, je suis un peu, je suis curieux, tu le sais, Nick. Puis j'ai dit à Luc Poirier, je dis, Luc, t'as payé combien d'impôts l'an passé? Puis il m'a dit 36 millions de dollars. Lui, chaque pièce, là, c'est pas si important que ça, là, mais il a envoyé quand même 36 millions de dollars. 36 ou 38, là, je mélange peut-être les deux chiffres, mais mettons que c'est 36 millions, on prend le chiffre le plus bas. C'est chaque dollar qu'il a gagné, là, il a travaillé pour. T'sais. On parlait du cas tantôt du gars qui nous écoute dans sa voiture, qui travaille 40 heures par semaine, qui a deux enfants, qui fait tout pour gagner sa vie, qui travaille fort. Il travaille manuellement, il travaille très fort, tout le temps mal au dos. Puis là, il voit que le gouvernement dépense de l'argent. Puis là, il voit un grand administrateur là, de la SAC dire « Hey, quand même que ça coûtera 50 millions, 200 millions, 100 millions de plus, pas ça qui va empêcher la Terre de tourner. » Ça te dit-tu juste à quel point ces gens-là, des fois, ils nous méprisent?
Oui, et puis tristement, on est plus maîtrisé qu'on le pense, en fait, méprisé. Puis ça, on le remarque généralement quand nous, on ose faire des demandes comme des baisses de taxes ou des sorties de différents mécanismes, comme la bourse du carbone, entre autres, ou des baisses de taxes sur l'essence, ce genre de choses-là. On remarque à quel point on se fait rabattre le même type de discours. Ben, on va prendre cet argent-là ou si on l'ose la laisser dans les poches des contribuables, comme si c'était odieux. Là. C'était un crime d'oser donner un allègement fiscal à des travailleurs, à des familles qui doivent prendre leur véhicule tous les jours pour aller au travail, pour emmener les enfants à l'école, pour à l'entraînement de soccer, puis ce genre d'activité-là, puis se dire, ces personnes-là, quelques dollars là, sur chaque plein d'essence, à la fin de l'année, ça fait quelques centaines de dollars qui peuvent être économisés puis être mis ailleurs. Puis ça, ben c'est quand on dit « ailleurs », c'est autant dans les poches des gens que ça va rester dans leur compte de banque ou sinon ça va être réinvesti dans le reste de l'économie et est quand même repris à un certain moment par la fiscalité, simplement à cause des taxes qui vont être payées à la consommation ou autre. Donc, c'est totalement... je veux dire, moi, ça me dépasse à chaque fois qu'on a une discussion à ce niveau-là, qu'on demande des baisses de taxes ou des baisses d'impôts. La réaction du gouvernement, c'est pas de savoir comment est-ce qu'on peut alléger le fardeau des contribuables les plus taxés en Amérique du Nord, à savoir quel calcul comptable on peut faire. Non, c'est plutôt aux contribuables d'expliquer où est-ce qu'on va prendre l'argent plutôt que de couper dans ses services, alors que le gouvernement, au cours des dernières années, a plutôt augmenté la taille de la machine sans pour autant nécessairement augmenter la qualité ou le nombre de services à la disposition des citoyens. Fait que c'est ce qui fait en sorte que je m'insurge sur une base quotidienne, c'est de me dire qu'on est les contribuables les plus taxés en Amérique du Nord puis qu'on demande un simple répit. Les fonctionnaires, ou plutôt les politiciens, nous rient en pleine face, nous disent « Ben non, on ne pourrait plus rien faire si on n'avait pas cette petite taxe sur l'essence, mais alors que cette taxe fait une grande différence dans le portefeuille de tout le monde. Puis en plus, on ose nous dire « Ben, on n'a pas d'argent parce qu'on a des déficits à répétition. » Mais les déficits qu'on a, ce n'est pas à cause des baisses d'impôts. C'est parce qu'on a un gouvernement qui dépense trop, qui dépense même plus que... dont les dépenses augmentent constamment plus rapidement que les revenus. Mais on ne se pose jamais de questions à ce niveau-là. Non, c'est toujours, le fardeau de la preuve est toujours sur le dos des contribuables, alors que la preuve est, je veux dire, c'est l'éléphant dans la pièce. On est les plus taxés en Amérique du Nord. On est un des citrons les plus pressés qu'il n'y a pas en termes de contribuables. Et on a rarement de l'écoute de la part des députés à l'Assemblée nationale. Mais j'espère, en fait, que cette dynamique-là va changer. Puis c'est pourquoi j'espère que ça va se passer. Bien, que je pense que ça va avoir lieu, c'est essentiellement grâce à l'année 2026. Moi, s'il y avait une année ou s'il y avait un cycle annuel que j'aime bien, c'est quand c'est une élection qui a lieu durant cette année-là, parce que c'est fou à quel point là, on commence à se délier la langue puis parler un peu plus des contribuables, puis du coût de la vie, puis du fardeau fiscal. Puis là, j'ai hâte de voir si la CAQ va revenir avec des baisses d'impôts, si le PLQ avec Pablo Rodriguez va se mettre à en parler, ou le PQ et les conservateurs, peut-être même les solidaires. Ouais. Mais on n'en a pas entendu beaucoup parler les dernières années, mais d'après moi, il va y avoir un réajustement forcé par le contexte des élections.
Donc, là, il y a plein de choses choses à jaser. Tu parles de Pablo Rodriguez. Lui vient d'un gouvernement extrêmement dépensier. Il a approuvé chacune des dépenses de Justin Trudeau qui a endetté tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, tes arrière-arrière-arrière-petits-enfants. Puis là, il arrive dans un parti provincial qui est reconnu pour être proche de chaque denier public. L'éducation financière aussi, Nick. Tu sais, ce que tu fais là ce soir, nous parler des dépenses, puis nous parler du bulletin des ministres des Finances, je trouve que c'est super important parce que, bon Dieu, quand j'étais jeune, puis je sais pas si toi, t'avais du monde comme ça autour de toi, mais on nous disait, ouais, mais ça coûte pas cher vivre au Québec. L'éducation, c'est gratis. La santé, là, les hôpitaux, tout ça, c'est gratis. Ah, excuse-moi, là, depuis que je paye des impôts, je peux te dire que tout ce qui t'entoure, là, qui est fourni par le gouvernement, il y a rien de gratis, là. À rien.
Non, il n'y a rien de gratuit, sauf peut-être le. Ben, ou sinon, quand on dit que c'est gratuit, ça me fait rire parce qu'on est rendu à devoir payer pas loin d'un quart de milliard de dollars pour avoir une nouvelle école. Au Québec, là, apparemment, c'est ça le coût, le prix à payer en taxes et en impôts pour avoir une nouvelle école primaire ou secondaire. Là, c'est à peu près 250 millions de dollars, ce qui fait aucun sens.
Ça, c'est combien de lampadaires, ça, Nick? Hein? Parce que la mairesse Catherine Fournier dit que ça commence à coûter cher à mettre des lampadaires dans sa ville. Là. Fait que 250 millions, c'est quoi? C'est 250 lampadaires, c'est ça?
C'est à peu près ça. Je pense qu'elle n'avait pas aussi sorti quelque chose par rapport aux 1,6 million de dollars pour une piscine municipale ou 16 millions. En tout cas, un montant complètement démesuré pour une piscine. Alors là, il va falloir quand même s'intéresser peut-être à tout ce qui se passe au niveau de l'octroi de ce type de contrat-là, puis ouais. comment est-ce que c'est distribué. Mais oui, c'est, au final, je veux dire, ce genre de choses-là, on réalise à quel point il n'y a rien de gratuit. Toutes ces infrastructures-là doivent être payées, puis c'est les contribuables qui payent pour. Mais d'autre côté, il va falloir qu'on s'intéresse à comment est-ce que l'argent des contribuables va être utilisé, parce qu'à chaque fois, on nous vend l'idée que c'est pour nous servir, que c'est pour aider la population, comme pour ramener ça à sa clique. Encore une fois, tout ça a été fait pour simplifier les choses, pour avoir une meilleure structure, pour que les citoyens aient accès à un service rapide. Et finalement, il n'y a rien de ça qui a eu lieu, mais on a tous payé le prix, puis on n'a pas fini de payer pour. Puis quand on regarde toutes les autres infrastructures où est-ce qu'on a des dépassements de coûts à répétition, bon, on peut effectivement se poser la question si finalement, il n'y a pas anguille sous roche à quelque part. Mais comme je dis, comme on en parlait initialement, ben pour revenir à Pablo Rodriguez, le fameux nouveau chef du Parti libéral du Québec, effectivement, derrière lui, il y a comme toute une... Il y a un héritage. Il a été ministre pour quand même un gouvernement qui a été extrêmement dépensé, qui a doublé la dette du Canada. Mais je lui donne quand même le bénéfice du doute qui peut nous surprendre dans la mesure où est-ce que peut-être, je dis bien peut-être que sa mentalité a changé ou qu'elle n'était pas pleinement exposée quand il était ministre à Ottawa. Ceci étant dit, c'était quand même quelqu'un qui a soutenu des projets de loi comme C-11 et C-18 quand il était ministre du patrimoine. Ce sont des projets de loi qui font en sorte que, inévitablement, on n'a plus accès à l'information ou aux nouvelles via Meta, donc Facebook et Instagram, entre autres à cause de ce type de projet-là. Donc, éventuellement, je crois qu'il y a des gens qui vont lui remettre sous le nez en disant « Ouais, mais tu sais, peut-être que tu veux devenir premier ministre du Québec, mais regarde ton bilan quand tu étais ministre à Ottawa, est-ce qu'on veut vraiment ça? » Mais au niveau des finances publiques, je crois qu'il y a un 180 degrés qui est possible pour tout le monde, parce qu'il est inévitable. Même les partis de gauche, même les partis comme le Parti québécois, qui n'a jamais été nécessairement le parti, en tout cas au courant des 20 dernières années, qui a beaucoup parlé de finances publiques, il en parlait, mais c'était un sujet comme secondaire par rapport peut-être à la laïcité ou la langue, ce genre de dossier-là. Il en parlait beaucoup plus dans les années 90 et 80. Mais même le Parti québécois parle de l'état du déficit, parle de l'état des finances publiques comme tel. Donc, ça ratisse large et inévitablement, les partis vont devoir se recentrer.
Quand on est dans la synthèse des budgets provinciaux, Nick, on voit que le Québec, bon, le Québec n'est pas super bien positionné, là, mais clairement, pour ce qui est des revenus, c'est 156 milliards, 342 millions contre des dépenses de 165 milliards, 772 millions. On arrive en dessous, puis probablement que dans les prochaines années, ça va être encore pire.
Ça va être encore, malheureusement, ça risque d'être encore pire, surtout si le gouvernement garde le cap sur ses politiques actuelles, comme le tout à l'électrique ou l'interdiction des voitures à essence et au diesel pour 2035. Tout ça, ça vient avec un coût qui est largement sous-estimé, même qui n'a pas été exposé par le gouvernement. Au fédéral, ils ont fait le calcul, parce qu'au fédéral, ils ont une politique à peu près identique pour interdire les voitures à essence pour 2035 à grandeur du territoire canadien. Et eux autres, leur calcul, c'est que d'ici 2040, pour la mise en place de toutes les bornes de recharge, plus les infrastructures d'électrification, ça va coûter plus de 300 milliards de dollars. Puis ça, c'est à la grandeur du Canada. Et ça, c'est à condition, bien sûr, que le provincial, à travers leur propre budget, soutienne également cette initiative. Donc, au fédéral, c'est 300 milliards, mais à la grandeur du Canada, ça risque d'être à peu près le double. Puis, donc, c'est quoi la facture qui est attribuable aux Québécois là-dessus? On a hâte d'en connaître le coût. Mais une chose est sûre, il y a un paquet d'ambitions qu'on a au Québec qui sont démesurées, qui pèsent lourd sur les finances publiques du Québec, alors qu'on a la difficulté à s'occuper de nos missions premières, qu'on garde l'état de nos hôpitaux comme celui de Maisonneuve-Rosemont, qu'on garde l'état de nos écoles, qu'on garde l'état de nos routes. Puis on se dit, on a un gouvernement du même coup qui essaie de sauver la planète en s'électrifiant plus rapidement que n'importe quelle autre juridiction en Amérique du Nord. Et éventuellement, il va falloir peut-être avoir un rappel à l'ordre qui disait, ouais, il faudrait revenir à nos priorités. Puis peut-être que c'est là que, quand il y aura ce réveil, qu'on va reprendre le contrôle sur nos finances publiques en se disant qu'effectivement, il va falloir qu'on se concentre sur l'essentiel.
Je ne sais pas ce qu'ils ont à chialer. L'hôpital Maisonneuve-Rosemont, là, on leur fournit un stationnement. On va leur faire un nouveau stationnement. Ça va être beau. Puis après ça, éventuellement, peut-être qu'on réglera le problème des chutes Niagara à l'intérieur de l'hôpital quand il pleut. Là. Je veux dire, moi, d'apprendre qu'au Québec, là, il y a des chirurgiens qui ont terminé leur opération avec la flashlight de leur propre cellulaire, je trouve ça tout à fait normal. Là.
Ah oui, je veux dire, c'est pas du tout digne d'une république de bananes ou genre d'un pays du tiers-monde, là. Je veux dire, comme, honnêtement. Puis dites-vous une chose, le budget en santé, puis ça, ils s'en vantent eux-mêmes à la Coalition du Québec, là, je veux dire, au gouvernement, puis je sais pas s'ils ont raison de se vanter de tout ça, mais le budget en santé a augmenté de pas loin de 50% depuis qu'ils sont au pouvoir, là. Donc, depuis 2018, donc on a augmenté de 50%. C'est des dizaines de milliards supplémentaires qu'on met de plus par année dans un système de santé qui nous donne ce genre de résultats-là. Bon, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, c'est pas mal rendu le pinacle, c'est le poster boy de l'état de notre système hospitalier au Québec. Mais le plus dérangeant là-dedans, c'est de se dire que finalement, le modèle, il est juste perpétué. On n'a rien changé au final. On a encore cet organigramme ultra complexe pour le ministère de la Santé et des Services sociaux. La seule chose qui aura été faite au cours des 6 dernières années, plutôt des 8 dernières années, ça va avoir été de rajouter une super structure par-dessus le tout qui s'appelle l'Agence Santé Québec, où est-ce qu'on a pris un paquet de personnel privé et on en a fait des fonctionnaires qui sont maintenant surpayés, qui ont le droit à une augmentation de salaire avant même que l'agence commence à entrer en vigueur et qui ont même dû payer pas loin de 200 000 $ ou je pense à pas loin de 100, j'ai retrouvé le montant exact dans quelques instants, mais ont dû payer des dizaines et des dizaines de milliers de dollars pour payer une firme qui va pouvoir définir la mission et la raison d'être de l'Agence Santé Québec. Donc, ça, c'est pour vous dire que tout ce monde-là, avec des gros salaires là, qui dépassent dans certains cas les 500 000 par année, ils ont non seulement bénéficié d'augmentation de salaire avant même de commencer à rendre des résultats puis des bonus, mais en plus de ça, ils ne savaient même pas ce qu'ils devaient livrer ou c'était quoi la mission ou l'orientation de leur organisation au moment même où ils commençaient à travailler. Donc, je veux dire, je vais être honnête avec vous, j'ai pas l'impression que ça va s'améliorer de sitôt en santé. J'espère me tromper, par exemple.
Puis on parle souvent de modèle en santé, là, comme quoi le Québec est un modèle, mais il faudrait arrêter d'utiliser ce mot de vocabulaire. Là. C'est parce qu'un modèle, à mes yeux, à moi, Nick, puis je pense qu'on en a parlé régulièrement, toi et moi, un modèle, on reproduit ça ailleurs. C'est un modèle. Tu sais, t'as un paternel qui est un modèle. Ben, t'essaies d'être le meilleur des paternels avec tes propres enfants en disant, moi, j'ai eu un modèle. Mais le modèle québécois en santé, il n'a jamais été repris nulle part ailleurs, même en Afrique, ils ne veulent rien savoir de ce fameux modèle en santé québécois. Là.
Non, exact. À la limite, il y a peut-être le Venezuela qui s'inspire de nous, mais je veux dire... mais pour être honnête, je pense qu'au Québec, on maintient ce genre de dogme alentour du modèle de santé québécois essentiellement à cause de notre proximité avec les Américains. C'est ce qu'on appelle l'argumentum ad americanum, là, c'est-à-dire que chaque fois qu'on parle de notre situation au Québec, on se réfère à la situation américaine. Si vous entendez parler des questions d'armes à feu, c'est parce qu'on veut pas devenir comme les Américains puis qu'on a des tiraillades à tous les jours, à tous les coins de rue. Si on entend parler du système de santé, ben on veut pas que ce soit privatisé puis que finalement les gens se retrouvent à mourir de faim pour pouvoir se faire soigner. Donc, c'est constamment de ramener ça à l'exagération absolue de la société américaine qui a quand même ses défauts. On va se dire franchement, c'est loin d'être une société parfaite, mais c'est faux de penser que le modèle québécois ne peut être que comparé à celui des États-Unis. On peut clairement le comparer avec n'importe quel modèle européen aussi facilement. Quand on parle du système de santé notamment, c'est bon de rappeler qu'il y a plus de privés en santé en France qu'en au Québec. C'est un pays qui est relativement plus socialiste que nous, mais qui offre plus de privés que nous, autant pour son système hospitalier que pour ses autoroutes. C'est quand même assez surprenant que ça vienne de la France. Donc, on a juste à s'inspirer littéralement du pays qui offre qui est un peu à l'origine même de la naissance du Québec, pour peut-être trouver des solutions sans nécessairement revenir constamment à un comparatif boiteux avec les Américains. Il y a l'Allemagne, il y a le Japon, il y a la Corée. Le Québec, malheureusement, doit changer. Puis on manque pas d'exemples de qui on peut s'inspirer, mais tristement, il n'y a pas grand monde qui sont inspirés par le Québec présentement. Oui, on peut l'aimer, notre Québec. On veut le garder comme tel. Puis c'est normal que notre modèle garde une petite touche propre à nous. Mais il faut arrêter de penser que ce modèle-là, il est soutenable. Il ne l'est pas, puis les chiffres le disent eux-mêmes.
Exact. Hey, Nick, on va faire une courte pause. Fais-moi penser de te reparler de l'hôpital de Maisonneuve tout de suite après la pause. J'ai quelque chose à dire par rapport à ça. Il y a eu, c'est rare que je dise ça, mais un excellent papier de Patrick Lagacé dans la presse à ce sujet-là. Je rappelle aux auditeurs qu'on est avec Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Si vous voulez en savoir plus sur la Fédération canadienne des contribuables, c'est contribuable avec un S.ca. On vit.
Marceau, le soir.
Boulevard, le pit stop. 101.
La semaine, dans Marceau le midi, Marceau et Gravel refont le monde pendant 30 minutes dans le pit stop.
Yes, mon homme!
C'est simple, rapide et efficace. Et surtout, tellement divertissant. Ils n'ont pas la prétention de régler des dossiers, mais ils ont souvent des bonnes idées.
Hey, ça, c'est un beau midi, mon gars.
Le Pit Stop. Tous les jours de la semaine, midi.
1, 2, 1.
Voyons, Yann, pourquoi tu ris de même?
C'est de quoi que j'ai vu sur mon sel, puis hey, moi, l'humour noir, là, vraiment, ça me tue.
Ouf! Moi, je trouve pas ça correct tout le temps, mettons, là. Je pense que j'aime plus l'humour absurde. Et peu importe le genre d'humour qui te rejoint, cette semaine, dans Rage Against le matin, en collaboration avec Juste pour rire Québec, on veut connaître tes goûts en matière d'humour. Puis tu pourrais gagner ta paire de billets pour le gala Juste pour rire de ton choix du 8 au 16 août prochain. Boulevard 101 est bien fier de te faire rire avec Juste pour rire Québec.
Le 21 juin, c'est la fête de chez Henri et compagnie. Musiciens live, mini-burger et beaucoup de plaisir. Viens célébrer 5 ans de réconfort avec nous chez henriecompagnie.com.
Vous avez craqué pour l'ID4? Faites le saut vers l'électrique chez Desjardins Volkswagen. Obtenez l'ID4 2024 avec un financement à 0% jusqu'à 72 mois avec 4 000 $ de rabais gouvernementaux et 11 000 $ de rabais additionnels. Tout ça chez Desjardins Volkswagen.
Mesdames et messieurs, bonjour. Les feux de forêt font rage au Québec alors que les foyers d'incendie se multiplient, alimentés par de nouvelles éruptions volcaniques au nord de la Tuque. Un dragon aurait également été aperçu survolant la région en crachant du feu. Plus de détails à venir.
Ben non, ça se déclenche pas comme ça. Trop souvent, c'est la négligence humaine qui est à l'origine de feux de forêt. Feux de camp mal éteints, brûlage de rebuts, mégots de cigarettes. Évitons les feux évitables. Un message de la Sopfeu avec la participation financière du gouvernement du Québec.
T'as besoin d'une nouvelle serrure ou d'un double de clé? T'as besoin de Côté Fleury. Jusqu'au 30 juin chez Côté Fleury, les serrures à haute sécurité comme Medeco et Multilock sont à 30 % de rabais. Depuis 75 ans, Côté Fleury, on n'est pas barré.
Encore un accident? Qu'est-ce qui est arrivé?
Notre chauffeur s'est fait couper et c'est lui qu'on blâme. Pas de témoins, pas de preuves. Nos coûts d'assurance n'arrêtent pas de monter.
Nos chauffeurs devraient pas être blâmés pour ça.
Ça nous prendrait Samsara. Leurs caméras avec intelligence artificielle vont enregistrer ces incidents en temps réel. On pourra prouver que nos chauffeurs ne sont pas dans le tort.
Avec Samsara, on pourrait protéger nos chauffeurs et éviter les fausses réclamations.
Exact. Samsara aide des entreprises comme la nôtre partout au Québec.
Protégez vos chauffeurs, votre réputation et vos profits sur samsara.com. Samsara, opérez plus intelligemment.
Savais-tu qu'un climatiseur, ça ne contient pas juste de la fraîcheur? Ça contient aussi une tonne de GES. Pour t'en débarrasser, recycle ton climatiseur avec Go Recycle. Trouve ton point de dépôt à gorecycle.com. À Go, recycle ta clim.
La méga soirée country Saint-Georges-GM est de retour en force au Dragfest le samedi 12 juillet 2025. Le plus gros show country en Beauce jamais fait. Luke Combs de l'Angleterre, Morgan Wallen du Royaume-Uni, Darius Rucker de l'Ontario et bien d'autres. En plus, DJ, danse country, taureau mécanique, tatoueur, exposant, commerçant, bar, food truck, camping sur place et bien d'autres activités. Plus de 10 heures de musique sous l'énorme chapiteau. Billets disponibles maintenant en quantité limitée sur j'achetemonbillet.com en recherchant Dragfest. Dépêche-toi d'acheter ton billet.
Ta voiture est comme pas neuve, mais t'en veux une neuve? On peut reprendre ta comme neuve et même t'en trouver une neuve. Pour une voiture, c'est Charlebourg Toyota. Évalue ta comme neuve au commeneuve.com.
Dernier épisode déjà du balado Histoire d'entrepreneur. Salut, c'est Joannie. Le lundi 30 juin, je reçois la sympathique et tellement accessible Cécile Dufour des Cliniques Viva. Fais le tour de son modèle d'affaires, de son modèle familial également. Puis on démystifie aussi c'est quoi du médico-esthétique. Je vous donne rendez-vous lundi, le 30 juin.
Histoire d'entrepreneur, présenté par l'équipe Marc-Antoine Reed, DG Gestion privée du patrimoine qui s'occupe de la planification financière et fiscale de votre entreprise. Équipe marcantoinereed.com.
Chez Miville Climatisation, on est concessionnaire autorisé Mitsubishi Electric numéro 1 au Québec. On est même lauréat du prix Diamant témoignant de notre excellence. Grâce à nos thermopompes performantes chez Miville Climatisation, ça fait 57 ans qu'on garantit votre confort. Visitez miville.ca.
Le homard est fraîchement débarqué chez Yuzu Sushi. Découvrez notre nouvel arrivage. Quatre créations débordantes de saveurs en parfait accord avec votre envie de homard. Les vrais fans seront ravis. Disponible pour un temps limité, Yuzu, c'est toujours bon.
Dans les zones de chantier, un automobiliste pressé peut coûter une vie.
C'est la semaine de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers. Leur métier est essentiel, mais trop souvent ignoré.
Restez attentifs et ralentissez. Respectez les signaleurs. Un message de McKinnon.
Cette semaine, dans la circulaire IGA...
Coupé!
Mais là...
C'est parce que les marchands ont révisé des prix.
OK. Cette semaine, dans la circulaire révisée par les marchands IGA, le demi-filet mignon de bœuf paré format familial est à 19,99 $ la livre.
IGA, vive la bouffe! Et les économies jusqu'au 18 juin dans les IGA participants. Détails dans la circulaire.
Lévis Mazda vous offre un financement à l'achat à compter de 1,95% sur plusieurs modèles 2025. Mazda 3, CX-30, CX-5, CX-70 et 90. Et si vous avez déjà une Mazda, on vous le fait à 0,95%. C'est maintenant la meilleure opportunité de l'année pour nos CX-70 et 90 PHEV 2025 avec un rabais de 3 500 $ du fabricant plus la remise gouvernementale de 2 000 $. Ça fait beaucoup de rabais, hein? Venez voir ça. Tout ça chez Lévis Mazda.
Boulevard 102.1.
De l'actu, du sport, de la circulation, du showbiz. Il se passe de quoi? Vous allez le savoir en premier. Il se passe rien. Vous allez le savoir aussi.
C'est simple.
Boulevard 102.1, connecté sur ce qui se passe à Québec. Tes sujets, ton rock, ta radio.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir. Le soir.
C'est toujours un plaisir de passer la soirée avec la belle gang de la Fédération canadienne des contribuables. Je dis la belle gang, mais c'est Nicolas Gagnon, la Fédération canadienne des contribuables au Québec. On le salue et on vous salue, tous ceux qui sont membres de la Fédération canadienne des contribuables. D'ailleurs, pour en savoir plus, c'est contribuable avec un S.ca. Juste avant la pause, tantôt, je te parlais de Patrick Lagacé. C'est rare que je vais rendre hommage à Patrick Lagacé dans la presse, là, mais il a écrit un papier concernant l'hôpital Maisonneuve. Il racontait l'histoire d'un médecin qui avait, excuse-moi l'expression en bon français, mais une crise de mauvaise nouvelle à annoncer à un patient et à la famille de ce patient-là. Puis tout le monde braillait. Et il y a un médecin qui a raconté ça à Patrick Lagacé en disant « Tout ce que j'avais à offrir aux gens qui étaient en train de brailler, c'était du papier brun parce qu'on n'a pas le droit d'avoir des Kleenex. On n'a pas de budget pour avoir des Kleenex pour donner aux gens qui braillent. » On est au Québec, là. Nick, on est au Québec. Puis tout ce que tu trouves à donner à quelqu'un qui vient de se faire annoncer, exemple, qui a le cancer, c'est du papier brun. Tiens, essuie tes larmes avec du papier brun dans le fameux modèle québécois.
C'est complètement inadmissible. Ça fait aucun sens. Comment on peut avoir augmenté de 50% les budgets en santé au cours des dernières années à coût de dizaines de milliards pour avoir des situations de même où est-ce qu'on manque de papier Kleenex dans les hôpitaux pour... Tu sais, on s'entend, là, je veux dire, des gens qui pleurent, des gens qui doivent, pour n'importe quelle raison, pour se moucher, n'importe quoi. Je veux dire, on parle du strict minimum d'avoir une boîte de Kleenex à répétition et on n'est pas capable de l'offrir aux gens parce qu'apparemment, il faut faire des compressions budgétaires parce que on n'a pas assez d'argent pour couvrir tous les services et tous les besoins dans l'hôpital. Ça fait aucun sens. Et en plus, dans l'hôpital de Maisonneuve-Rosemont, donc je veux dire, c'est quoi? C'est parce que les mouchoirs ont été mangés par les écureuils? Là? C'est tout ça qui s'est passé? Parce qu'honnêtement, on en rit, là, mais à la fin, c'est tellement pitoyable. Si on me disait que cette scène-là avait eu lieu dans un hôpital à Cuba, je le croirais sur mesure. Mais là, je crois aussi Patrick Lagacé, là, puis le texte comme tel, mais j'ai la difficulté à croire qu'on est rendu là au Québec.
Écoute,
malgré tout.
Patrick Lagacé, là, Il va dire, coudonc, qu'est-ce qui se passe avec Marceau, là? Mais, parce qu'il est assez capable de se dire des beaux compliments à lui-même, là. Mais Patrick Lagacé, dans son papier, a poussé l'enquête. Il a parlé avec le porte-parole. C'était le porte-parole du CHUM. Et le porte-parole du CHUM, il a dit qu'avant de décider de rationner les Kleenex, le CHUM avait fait l'exercice de comparer son utilisation de mouchoirs en papier à l'utilisation faite dans d'autres hôpitaux, par exemple à Sainte-Justine. Elle a aussi dit qu'on trouve toujours des boîtes de Kleenex à l'intérieur des murs du CHUM, là où les Kleenex étaient très utilisés. Ils sont encore là. Ce n'est pas l'expérience que les deux médecins à qui j'ai parlé séparément vivent. Ils avaient des Kleenex dans leurs unités. Ils n'en ont plus. Ils utilisent désormais du papier de toilette ou du papier brun quand ils ont besoin de mouchoirs pour les patients. On est là, là!
Ah,
on est là, là!
Ça n'a pas de bon sens.
Bon,
c'est...
En terminant avec la Fédération canadienne des contribuables, vous planchez sur quoi dans les prochains jours? Là, à Ottawa, c'est sur le point de partir en vacances, là?
Oui, ça part en vacances ce vendredi. À moins que je me trompe, c'est là que le Parlement devrait être levé. Tout ça sans qu'on ait droit à un budget pour le printemps, essentiellement, parce qu'on est encore là, dans le printemps, plus ou moins officiellement, même si la température nous dit qu'on est en été. On n'aura pas eu de budget ce printemps, ce qui est totalement dérangeant, mais au moins, on va avoir quand même quelques résultats intéressants. Là, il y a une baisse d'impôts qui s'en vient, qui devrait entrer en vigueur dès le 1er juillet prochain. Ça, mine de rien, c'est une petite victoire pour les contribuables qui mérite d'être soulignée. Faut rappeler là, que c'était dans les promesses de Mark Carney de donner une baisse d'impôts de 1% sur le premier palier d'imposition fédérale. Donc, on passe de 15 à 14% là, sur le premier palier, ce qui donne à peu près, pour une famille à deux revenus, c'est environ 800 $ par année d'économie. Donc, c'est une bonne chose. On est très content que ça entre en vigueur. Donc, on va juste s'assurer à ce que ça entre en vigueur comme tel. Une autre affaire qui est intéressante aussi, c'est que présentement, on est dans la fin des travaux parlementaires à Ottawa. Donc, on est dans l'étude des crédits puis dans les votes qui ont lieu par la suite. Et on a